Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle visite radiophonique, toujours avec Nelly Lafond du Pays d'Art et d'Histoire. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et Caroline Entraigue du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Lozère. Salut Caro.
Salut.
Alors Nelly, vous m'emmenez où aujourd'hui ?
On t'emmène pas très loin, on va rester à Mende aujourd'hui.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafond.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Ben, en effet, Caro, on n'est pas allé très loin, on est monté juste un peu sur les hauteurs de Mende.
Donc on est dans le quartier de la Vabre, donc on va pas refaire l'historique, ça fait plusieurs fois qu'on visite Mende, mais on est potentiellement sur l'endroit originel d'implantation de la ville de Mende, au niveau des sources qui descendent du Causse de Mende, et entre la partie mendoise qui est plus du côté marécageux du Lot. Voilà.
Et on est dans un cimetière.
Voilà, on fait visiter aux auditeurs le cimetière Saint-Gervais. Pour une visite spéciale Halloween.
Pourquoi ce cimetière, il est particulier dans l'histoire de Mende ?
Il n'est pas forcément particulier dans l'histoire de Mende, mais l'avantage de ce cimetière, c'est qu'il a gardé tout l'historique du cimetière, c'est-à-dire qu'il est encore à proximité de l'ancienne église, de la chapelle actuelle Saint-Gervais, ce qui n'est plus le cas dans les villes d'aujourd'hui, puisqu'en fait les cimetières sont complètement sortis des murs de la ville. Et donc on retrouve dans ce cimetière tout un patrimoine funéraire de très grande qualité, un petit peu à l'abandon, comme on va le voir, mais en tout cas de très grande qualité qui mérite vraiment le détour.
Voilà, un petit peu à l'abandon, on voit beaucoup de concessions. Il y a marqué cette concession réputée en état d'abandon, fait l'objet d'une procédure de reprise, prière de s'adresser à la mairie. C'est un indice qui nous montre, pas la vétusté, mais l'âge de ce cimetière.
Ben oui, effectivement, on a aujourd'hui un cimetière avec des tombes un peu cassées, des pierres, de la fonte qui s'entremêlent. Donc un cimetière qui est un peu attristant quand on le voit comme ça, parce que effectivement il y a beaucoup de tombes en très mauvais état, mais qui garde quand même un côté très romantique. Et c'est là-dessus qu'on va beaucoup parler avec Caroline, parce que c'est un cimetière qui a énormément évolué au cours du 19e siècle. Donc c'est le cimetière le plus ancien de la ville de Mende. Donc il est important pour la ville, et du coup on va se balader dans les allées de ce cimetière qui ont un charme romantique, désuet, enfin voilà, qui est charmant.
En tout cas, dehors, on ne se rend pas compte de la superficie de ce cimetière de l'extérieur.
Oui, donc c'est un cimetière qui fait à peu près 0,75 hectares. On a ici environ 6000 défunts répartis en 1350 concessions. Au niveau du plan du cimetière, je pense qu'on peut commencer par là, on a 13 secteurs, un petit peu comme une mini-ville, hein, ça fonctionne de la même manière, on a des îlots répartis par des rues assez quadrillées, on a 4 allées longitudinales qui vont d'est en ouest, et ce plan est issu d'une réorganisation de 1852. Voilà, il a été agrandi plusieurs fois, deux reprises en 1835 et 1868.
C'est vrai, on ne se pose jamais la question de la disposition à l'intérieur de cimetières. Tous les cimetières, finalement, à une certaine époque, se ressemblent. On trace les mêmes plans ou ça dépend de la topologie, ça dépend d'autres choses?
Alors, il faut savoir qu'à l'origine, les cimetières étaient implantés en continuité même des églises, sans forcément de plan comme on le voit aujourd'hui. Puisque beaucoup de cimetières aujourd'hui ont eu des plans d'alignement où on va venir décaler des tombes pour retrouver des allées droites, mais ce n'était pas forcément le cas à l'origine.
Oui, comme à la cathédrale de Mende, où le cimetière était accolé à la cathédrale.
Oui, alors effectivement, je rebondis sur ta remarque, disons, puisqu'avec Caroline, on voulait effectivement évoquer l'art funéraire et les pratiques funéraires au cours des siècles, puisqu'on a visité ensemble le mausolée de la Nuéjol, on en a parlé pour la période gallo-romaine, on t'a pas encore amené visiter de dolmen, mais on a aussi, voilà, dès la période néolithique, une pratique funéraire très très importante. Et donc tout ça va évoluer au cours des siècles, en même temps que va évoluer le rapport à la mort que les gens ont, en fait, qui reste certes très très intime. Hein, on a tous un rapport à la mort assez particulier et personnel. Mais on va voir à travers le cimetière Saint-Gervais et à travers d'autres exemples comment ce rapport à la mort va évoluer, comment on va commémorer nos morts, comment on va se souvenir de nos morts. Et en fait, à différentes époques, on va pas le faire de la même façon. Donc, au cimetière Saint-Gervais, qui est qui est le plus ancien cimetière de la ville, on l'a déjà dit. Tu parlais de ceux qui étaient autour de la cathédrale. Il y en avait deux, donc un situé proche de la place, enfin au niveau de la place Chaptal actuelle, et un sur le parvis. Et effectivement, on va à un moment donné donc sortir les cimetières de la ville pour des questions de salubrité et des questions aussi urbanistiques. On a besoin d'espace dans les villes. On a besoin aussi d'aérer les villes. Donc on va sortir les morts pour les enterrer donc dans des cimetières extérieurs parce qu'on manque de place. Et donc c'est à ce moment-là que ces deux cimetières qui sont proches de la cathédrale, on va donc déplacer les morts pour les mettre au cimetière Saint-Gervais qui existait déjà, puisque le cimetière Saint-Gervais, donc selon les historiens, il daterait du XIIe siècle. Cependant, la première mention vraiment écrite date de 1257, donc du XIIIe siècle.
Et pour préciser ce que disait Nelly, c'est vraiment au début du 19e siècle qu'on va du coup délocaliser les cimetières des parties habitées. Et donc à Mende va se créer le cimetière Séjalan, merci, qui a eu une extension récente que je tiens à citer, c'est l'extension du cimetière Séjalan, qui est une nouvelle manière d'avoir cette relation avec la mort, avec un amphithéâtre de verdure avec beaucoup de rosiers et des murs en aspect pierre sèche qui accueillent un columbarium. Donc une autre façon aussi aujourd'hui de nouveau rapport avec la mort.
Je reprends ce que dit Caro. Effectivement, on n'en a pas parlé, mais évidemment, les aménagements cimétériaux, les tombes sont extrêmement liés aux pratiques qu'on a, des pratiques funéraires. Donc, et on va à un moment donné vouloir enterrer nos morts dans des cercueils, dans des sarcophages. Donc ça va développer toute une pratique autour de ça, alors qu'avant, par exemple, on va enterrer nos morts directement dans la terre. Donc, évidemment, ça entraîne un besoin de place supplémentaire et donc un art funéraire qui va se développer autour de ces nouvelles pratiques.
Et ce qu'on peut souligner, c'est qu'on a tout un patrimoine assez riche en Lozère, finalement, d'art funéraire. Comme disait Nelly, on a beaucoup de dolmens, de coffres, de tumulus, qui sont présents notamment sur le cosse de Sauveterre. On ira peut-être en voir lors d'une prochaine visite radiophonique. Bien sûr, le mausolée de la Nuéjol, à l'époque de l'Antiquité. Et quand on parlait des sarcophages, du coup, là, c'est vraiment la trace du début du Moyen-Âge. On a quelques beaux sarcophages qui sont encore visibles à Saint-Paul-le-Froid et à Serverette, notamment. Et ensuite, du côté du monastier, on a tout un patrimoine de stèles. Donc vraiment, le moment où on commence à mettre une pierre verticale au-dessus des tombes. Donc c'est des stèles qu'on appelle discoïdales parce qu'elles sont en forme de petits ronds, comme un petit trèfle à quatre feuilles. Voilà. Et donc il y a un très beau patrimoine là-dessus au monastier. Et puis ensuite, ici, sur le cimetière de Saint-Gervais, on a tout un patrimoine du 19e et 20e siècle qui est lié au monde un peu plus bourgeois où on va montrer sa richesse, montrer son importance, son pouvoir par l'architecture. Donc on va voir de très belles sculptures, l'utilisation de pierres de qualité, l'utilisation de la fonte pour montrer du coup qu'on était un personnage assez illustre. Et donc ce cimetière-là, tout ce patrimoine de fin 19e, début 20e qui est très intéressant.
Ok, ben on va rentrer alors.
On va parler un petit peu de la porte avant, peut-être.
Ah oui, pardon, on va parler de la porte avec ses anges chromés. Tu n'aimes pas le chrome des anges?
Ben là, franchement, je pense que le repas est tout à fait...
De très grande qualité.
Hors de propos.
Un repas un petit peu malheureux, je dirais, ou pas très heureux, plutôt. Ouais.
Donc, cette porte...
Donc, c'est une porte
dans... Pardon, mais je dirais plutôt portail, hein, mais...
Ouais, donc ce portail avec ses beaux anges argentés.
Donc on est devant le portail d'entrée, magnifiquement ferronné, avec le nom du maire, Monsieur Bécamel, maire en 1852, dont date de la pose de ce portail, avec dessus une citation peinte en argenté, qui indique « Nous ressusciterons tous ». Je ne vous fais pas la version en latin, excusez-moi.
Allez, on va pousser ce portail, attention, il est difficile. Ah, donc on rentre dans ce cimetière et on voit de suite à la gauche l'imposante église.
Oui, l'église Saint-Gervais, puisque donc ce cimetière et l'église sont dédiés à Saint-Gervais. Donc Saint-Gervais et Saint-Protée, ces deux frères jumeaux martyrs du 1er siècle, qui montrent déjà une fondation très ancienne, puisque c'est des martyrs... qui vont être honorés, on va dire, dès le 5e siècle. Donc, on a d'autres églises en Lozère qui sont dédiées à Saint-Gervais et Saint-Protée, notamment l'église du Chassel-Nouvelle, pour ne parler que d'elle, proche de Mende. Et puis, une chapelle aussi dans la cathédrale de Mende. Donc, ça montre vraiment une dévotion à ces deux saints assez importante ici en Lozère. Et donc, aujourd'hui, comme on peut le voir, l'église qui est maintenant chapelle, on va dire, l'église Saint-Gervais est complètement tronquée puisqu'il ne reste que le chœur. Donc il faut imaginer à l'origine qu'elle s'étalait vraiment beaucoup plus ici, qu'elle devait faire à peu près 60 mètres de longueur puisqu'elle est décrite avec 15 chapelles. Et donc le cimetière était beaucoup moins important à l'origine.
C'est à l'occasion des guerres de religion qu'elle a été en grande partie détruite.
Voilà, et sur la gauche, on peut voir qu'a été accolée la maison du gardien du cimetière qui est toujours habitée. Donc, pour récapituler un petit peu donc l'historique du cimetière Saint-Gervais, donc il faut s'imaginer au Moyen-Âge à Mende trois cimetières, dont deux intramuros, proche de la cathédrale, et le cimetière Saint-Gervais qui remonte au moins au XIIIe siècle. Il date du Moyen-Âge, mais les tombes les plus anciennes ne remontent pas au-delà de deux siècles, c'est-à-dire pas au-delà du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, il reflète vraiment beaucoup plus le XIXe. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il a été relativement préservé au XXe siècle de mausolées de granit qu'on voit un petit peu partout, mais Caroline va en reparler. Donc on a une vision, voilà, c'est pour ça qu'on parlait d'une vision assez romantique en fait de ce cimetière qui nous renvoie énormément au XIXe et au tout début du XXe siècle.
Et donc on va voir avec toi un petit peu les différents styles et modes dans les sculptures qu'on peut retrouver dans ce cimetière. Par exemple, on a une fontaine qui a été créée en 1893, un petit bassin central en rocaille. Donc c'est du béton qui imite la nature, c'est vraiment dans le mouvement un petit peu romantique aussi de l'époque.
Donc il a subi trois agrandissements pour les besoins évidemment de la population.
Du coup, il a été agrandi en 1868, un agrandissement qui a quasiment permis de doubler sa surface, côté sud, donc opposé à nous. Et donc ce cimetière, il faut préciser qu'il a été le seul cimetière de la ville en fonction, de 1791 à 1908, date de l'ouverture du cimetière de Séjalan. Et donc on a quasiment un siècle d'aménagement dans ce lieu.
Et donc là, on est dans quelle partie du cimetière ?
Alors on vient juste de rentrer, donc on a passé le portail et on est dans la partie la plus ancienne du cimetière. C'est là qu'on va trouver principalement, enfin majoritairement, les tombes les plus anciennes qui peuvent remonter jusqu'au 18e, mais elles sont peu nombreuses.
Et du coup, dans cette partie la plus ancienne, on a des pierres sépulcrales qui sont généralement en calcaire, comme on peut le voir sur notre gauche. Elles ont au maximum 2 siècles. Voilà. Quelques-unes sont en granit. Elles ont un décor assez sobre. Souvent, elles sont juste gravées. Mais des fois, elles peuvent avoir un petit coussin ou une gravure de la Légion d'honneur, par exemple.
Ce qu'il faut imaginer, en fait, quand on est dans le cimetière, on a différents matériaux, en fait, qui se côtoient aujourd'hui, avec, pour les parties les plus anciennes, l'utilisation des matériaux locaux, comme le calcaire, en priorité, un petit peu du granit qui vient d'un peu plus loin. Et puis après, en avançant dans le temps, on va avoir d'autres matériaux qui vont faire leur apparition, comme le basalte, le marbre, le fer forgé, la fonte. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir en se baladant là dans le cimetière.
Et donc, suite à ces pierres sépulcrales, on va commencer à verticaliser un peu les sépultures, tout simplement. On va avoir des stèles, des piliers et autres colonnes qui vont voir le jour. On va en voir plusieurs sur l'autre partie. Et donc, on tournait le défunt vers le ciel. Et en haut de ces stèles, on retrouve très souvent des croix sculptées en calcaire. On peut les voir, elles dominent un peu le skyline du cimetière, si on peut appeler ça comme ça. Et donc là, on va s'arrêter devant ce qu'on appelle un tombeau ou un caveau, qui sont du coup les formes les plus élaborées, où on a du coup plusieurs personnes à l'intérieur. Et donc c'est au début du 19e siècle qu'on commence à construire des loges vraiment souterraines pour accueillir toute la famille.
Et donc là justement, on se trouve devant une première tombe, famille Morin.
Oui, donc c'est un caveau qui est situé vraiment sur la droite quand on rentre dans le cimetière, un des beaux tombeaux du cimetière Saint-Gervais, et qui a la particularité de présenter un ange sculpté en marbre. Donc le marbre est très peu présent dans le cimetière Saint-Gervais, puisqu'on utilise essentiellement du calcaire et du calcaire local. Et là, on a un très bel ange qui tient donc une corbeille de fleurs et qui va en déposer une sur la tombe située à ses pieds.
Il faut savoir que c'est aussi la tombe un peu particulière d'une jeune fille de 16 ans. Donc, ce qui explique aussi cette sculpture et ce marbre assez soigné pour du coup un événement difficile, quoi.
Juste après, là, on vient de se décaler de 2-3 mètres. Une stèle sculptée qui est assez intéressante. Ça date de quelle époque ?
On est au début du 20e siècle. Là, on est dans quelque chose de très caractéristique de cette période. On en a beaucoup dans d'autres cimetières. C'est une stèle sculptée, mais qui insère une niche avec une vitre en verre sous laquelle est disposée une couronne de perles tressées. Voilà, on en a beaucoup à cette période-là, au début du 20e siècle, dans un style un petit peu art déco, fleuri. Une très belle tombe à la mémoire d'une épouse décédée.
Et donc, en parlant de matériaux, là, on arrive sur de la pierre de lave. On voit, c'est beaucoup plus noir. Et donc, ça montre un deuxième mouvement un petit peu de mode dans ce cimetière, l'utilisation de la pierre de lave. Un cimetière art déco, il y en a un très très beau à Langogne, où on a énormément d'architecture art déco, mais le cimetière est vraiment d'un style art déco qui est remarquable, qu'on a finalement moins dans ce cimetière à Saint-Gervais, mais on en a beaucoup à Langogne.
Troisième tombe.
Donc là, c'est la tombe Borélie de Serre, qui est également une tombe en marbre, également une tombe pour un enfant. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on voit une belle sculpture face à nous d'un papillon, et derrière, une rose dont une fleur, est en train de tomber. C'est une sculpture assez belle, assez délicate, pour une mère et son fils.
Je vous vois depuis là-haut, c'est beau d'être au-dessus. Que je vole dans tes bras, je pourrais bien tomber, tu pourrais m'oublier. Serait-ce la dernière fois que tu es près de moi, à m'aider à lutter contre la gravité. Par le hublot, c'est beau, je te vois bien plonger. que je vole dans tes bras. Je pourrais bien tomber, tu pourrais briller. Serait-ce la dernière fois que tu es près de moi, à m'aider à lutter contre la gravité.
Magnifique, on arrive où ?
On arrive là devant un petit kiosque en fer forgé, donc c'est les tombes de la famille Doladi. Et donc c'est assez intéressant puisque le fer forgé, on a pu le voir quand on se balade dans le cimetière, est énormément présent. Sur l'ensemble des tombes, on a de très beaux motifs en fer forgé qui sont vraiment du début 20e siècle. Donc ici, on a un kiosque de forme carrée avec un toit à deux pentes. Une volige en bois et au-dessus une toiture en plomb. Et donc on voit des petits motifs floraux en plomb qui viennent ici sous les corniches du kiosque.
Ouais, on a ces motifs en fer forgé dont parlait Caroline. En fait, c'est des clôtures qui vont clôturer l'espace, on va dire un peu sacré, en tout cas dédié aux défunts. Et donc ça montre une fois de plus le rapport qu'on peut avoir à la mort, c'est-à-dire qu'on... On se sépare quand même du défunt, du monde des morts, et on les protège d'une certaine façon avec ce système de clôture.
Là, on les protège même du ciel.
Exactement.
Juste derrière, si tu veux, il y a la tombe du jardinier, que l'on voit ici juste derrière, et qui, elle, est recouverte de plantes qui fleurissent tout au long de la saison. Voilà. Donc c'est assez intéressant, parce que c'était la tombe du jardinier.
Ouais, et puis alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans le cimetière Saint-Gervais il y a peu de végétal, il y a deux arbres, mais on peut voir sur pas mal de tombes des restes de souches, donc qui devaient être passablement arborés voilà, dans les années passées, on va dire, ou en tout cas au siècle dernier. Et donc voilà, on a quelques tombes encore avec des plantes, et notamment cette belle tombe qui est presque envahie en fait de végétal. C'est très beau.
Et c'est une nouvelle façon de voir la mort aussi de nos jours, puisque c'est une nouvelle tendance, si je peux parler de tendance, d'avoir des tombes végétales. Pour éviter du coup toutes ces fleurs en plastique qu'on va fleurir dans les cimetières, mais vraiment quelque chose qui reste, des arbres, des plantes, et qui vont fleurir tout au long des saisons pour vraiment montrer la vie au travers de la mort.
C'est d'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Caron, mais au XIXe siècle, dans ce fameux courant romantique où on voit apparaître ces cimetières comme le Père Lachaise, ici le cimetière Saint-Gervais, on a notamment dans les pays anglo-saxons et en Allemagne ce courant qui va vraiment se développer de cimetières-jardins, avec des grands parcs arborés où enfin voilà, qui invite vraiment les vivants à venir se rencontrer, commémorer les morts et parler de leurs défunts, voilà, dans un lieu complètement arboré.
Et c'est vrai que ça va être une nouvelle façon de voir les cimetières, puisque on le voit là, le cimetière est gravillonné, souvent ils sont goudronnés. Il y a toute une politique aujourd'hui du zéro phyto, c'est-à-dire de ne pas utiliser d'entrants dans le sol, qui amène du coup les communes à repenser le cimetière en jardin, en travaillant sur des couvre-sols, des gazons, de la prairie, pour éviter du coup d'enlever l'herbe, mais vraiment de considérer le cimetière comme un parc. Donc petit à petit, dans les nouvelles manières de voir les cimetières, ça va être de plus en plus végétalisé. Et comme on peut le voir sur l'extension du cimetière, c'est Jalard dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, les cimetières sont des lieux de vie.
Du coup, on avance un peu vers le sud. Beaucoup de tombes. Ce cimetière est connu aussi pour abriter des personnalités. Il y a beaucoup de gens connus, d'illustres mandois, voire lozériens dans ce cimetière.
Oui, il y en a beaucoup. Notamment, il y a beaucoup de maires, de sénateurs, de conseillers départementaux. Je crois qu'on peut compter 16 maires enterrés au cimetière.
Comme ici, Paulin Daudet. Qui a un magnifique caveau, hein, qui reprend l'idée du mausolée. Donc là, on est plutôt sur un style qu'on appelle néoclassique. On va reprendre un peu les stéréotypes de l'architecture romaine. Ça ressemble un petit peu au mausolée de la Nuéjouls, avec ses colonnes, ses chapiteaux avec des motifs floraux, ce tympan. Et du coup, c'est quand même un caveau magnifique. Il est quand même digne quasiment du Père Lachaise. On en a très peu. Des caveaux monumentaux. On a également des petites chapelles comme petite architecture, mais vraiment celui-là est assez remarquable parce que c'est vraiment quasiment un bâtiment. On peut s'arrêter là si tu veux, Ludo, pour voir un autre style assez présent sur le cimetière Saint-Gervais. Donc c'est le style néo-gothique, toujours dans ce mouvement romantique, on revient aux princesses du Moyen-Âge, voilà. Et donc on trouve cette tombe qui est sculptée par Galière aînée, tout le stéréotype un peu du néo-gothique. On a une pierre en basalte qui est aussi très présente dans le cimetière, avec, tu vas le voir, donc deux arcs brisés, géminés, avec un motif trilobé. Je ne sais pas si tu le vois bien. On avait parlé quand on avait visité le château du Boy.
Et j'imagine que c'est lui-même qui a fait cette sculpture. Enfin, on ne le sait peut-être pas. Mais...
Si, en fait, la tombe est signée, en fait, Galière aînée, sculpteur. Donc, en fait, on a ici, dans le cimetière, au moins deux patronymes, c'est-à-dire deux sculpteurs qui ont signé quelques tombes et qui ont un style assez reconnaissable, puisque Galière a fait 2-3 tombes dans le cimetière, et un deuxième, donc Pagès, qui a, lui en a fait 5 ou 6. Voilà, donc on a voilà, deux sculpteurs mentionnés, et le reste anonyme, donc voilà. On n'en sait pas plus.
Ils sont assez reconnaissables les deux par rapport aux pierres qu'ils utilisent, on en a parlé tout à l'heure. Donc Galière va beaucoup travailler le basalte, tandis que Pagès, lui, va travailler plutôt le calcaire bleu, celui qui est marneux.
Et juste à côté de la tombe de Paulin Daudet, nous avons une croix sculptée.
Donc là, on est sur la tombe de la famille Bonvalet-Mager, et donc c'est pas une croix, c'est vraiment un arbre de vie qui a la forme d'une croix, et on retrouve en bas un lierre comme ça qui vient courir le long de la croix, et un parchemin qui indique le nom de la famille. Elle est assez atypique, c'est un petit peu le seul dans son style qu'on retrouve dans ce cimetière.
On termine cette émission, il y a une actualité sur ce cimetière, Nelly.
Oui, alors depuis 2012, la mairie a lancé l'inventaire de toutes les tombes du cimetière afin de l'aménager, de le conserver, donc pour une mise en valeur plus tard aussi de certaines tombes, puisqu'on a vu, hein, il y a des tombes remarquables de personnages illustres lozériens. Donc un règlement a été établi aussi pour le cimetière. Et donc on a vu, hein, sur beaucoup de tombes des mots, hein, comme tu le disais, donc les personnes, puisque c'est des concessions perpétuelle, hein, ici pour la majorité. Donc les gens ont 3 ans pour se se manifester. Et s'ils ne le font pas, la mairie, la municipalité va pouvoir récupérer les concessions, peut-être voilà, pour détruire certaines tombes, pour pouvoir créer de nouveaux espaces et faire vivre à nouveau ce cimetière.
Mais c'est très important de le préserver, de le protéger et de le rénover, puisqu'on peut le voir, il y a déjà pas mal de nouveaux caveaux qui se sont installés sur un modèle beaucoup plus banalisant que ce que l'on voit aujourd'hui, avec des granites qui viennent d'extérieur, pour la plupart de Chine, des granites gris, des granites rouges, des granites verts, on a même vu de la fibre de verre. Et c'est vrai que pour que ce cimetière puisse garder tout son charme et tout son historique de début du XXe siècle, c'est important de le protéger et de le conserver.
Une anecdote pour Brillant Société ?
Alors, on en a même deux aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi les croque-morts s'appellent ainsi ?
Il me semble que ça venait lors du Moyen-Âge, quand les villes étaient assiégées, que la population enfermée n'avait plus rien à manger et on s'est mis à croquer les morts.
Non, c'est pas tout à fait ça. Mais ça le mérite de faire appel à pas mal d'imagination.
Mais ça date bien du Moyen-Âge, par contre. Donc, il y avait beaucoup de morts qui étaient rassemblés avec des crochets, où une ancienne pratique consistait à mordre l'orteil du défunt pour s'assurer qu'il était bien mort. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle le croque-mort.
Bon, alors ça reste quand même une légende, hein, cette explication. En tout cas, le mot apparaît à partir du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française.
Et une deuxième anecdote ?
Une anecdote d'actualité. C'est vrai que c'est Halloween, c'est aussi bientôt la Toussaint. Qui dit Toussaint dit chrysanthème. Donc la chrysanthème, c'est vraiment la fleur du cimetière qui orne tous les cimetières à la Toussaint. Et donc cette tradition, elle remonte à la Première Guerre mondiale, où se développe la coutume d'orner les tombes des défunts avec des fleurs. On a vu quelques exemples de fleurs en perles, donc là c'est vraiment des fleurs vivantes. Et en effet, lors du premier anniversaire de l'armistice en 1918, Clémenceau aurait appelé les Français à fleurir les tombes des soldats tombés au front. Et la chrysanthème est la fleur qui pousse à cette période.
D'accord, merci les filles, on va souhaiter un bon Halloween à tout le monde, à toutes les familles, à tous les enfants, même si on ne le fête pas forcément dans notre pays, sur notre territoire. On va se focaliser plutôt sur la prochaine émission avant la fin de l'année. Pour savoir où vous allez m'amener.
Ah, on hésite encore avec Caro.
On va voir si tu as été sage.
C'est surprise, la fois prochaine.
C'est surprise.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.